Bonjour frères et sœurs. Il y a un contexte d'abord aux paroles de Jésus que nous venons d'entendre dans cet évangile. C'est un contexte de persécution d'une communauté qui est insignifiante en nombre et qui peut être sujette à la peur de l'engloutissement. La communauté de Matthieu, des judéo-chrétiens, c'est-à-dire des juifs qui se sont convertis à Jésus, le Christ, l'envoyé de Dieu, se trouve de plus en plus en butte à l'exclusion de la part des autorités de la synagogue. Cette exclusion peut d'ailleurs parfois prendre des formes violentes. Voilà pourquoi les versets qui précèdent ce que nous venons d'entendre évoquaient ces tensions, ces luttes et ce rejet. Et maintenant, du coup, Jésus évoque trois peurs, à mon sens, dont il veut prémunir ses disciples. La première peur, je dirais, c'est que la vérité n'éclate pas, la peur de l'injustice. Ce sentiment profond, amer, de l'humanité. Et chaque enfant, très tôt, en fait l'expérience. Et dans l'histoire de cette humanité, que de vagues profondes, dévastatrices, de cette humanité face à la réalité de l'injustice. Elles sont tellement nombreuses, injustice de la condition des esclaves, injustice de la condition ouvrière, injustice de la misère des laissés pour compte, injustice du discours et des attitudes raciales. La liste est immense, elle se réactualise de décennie en décennie. Et plus personnellement aussi pour chacun, l'injustice ressentie de vie, non reconnue, l'injustice face à des combats véridiques que nous menons et qui nous semblent pourtant perdus. La parole de Jésus me semble radicale pour le temps présent de nos vies. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière. Ce que vous entendez au creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. Et puis, cet avertissement terrible, ne craignez pas ceux qui tuent le corps. Si vous les craignez, vous auriez organisé votre survie simplement. Mais craignez ceux qui tuent l'esprit. Car alors, c'est la vie elle-même et ses possibilités de renaître que vous aurez tué en vous. Vous serez des survivants, vous ne serez pas des vivants. Alors ces paroles, évidemment, elles nous font trembler. Elles nous font trembler d'autres peurs que l'injustice, la peur de nos lâchetés. Et nous savons pourtant que celles et ceux que nous considérons comme les phares de l'humanité, inutile de redire tous ces noms qui ont marqué l'humanité dans leur combat pour la justice et qui en sont morts pour beaucoup d'entre eux, ces phares de l'humanité sont en vérité celles et ceux qui sont allés jusqu'au bout de cette parole et de la justice qui est précisément en cette parole. La deuxième peur, je dirais que c'est vraiment la peur de la mort qui engloutit tout, le néant. Nos vies seraient-elles donc inutiles, insignifiantes au point de pouvoir être englouties sans que nul ne s'en préoccupe? Le « à quoi bon » qui peut nous envahir. Alors j'aime bien la comparaison avec les moineaux. Ces vies minuscules, insignifiantes en apparence, mais ces vies inventives, pétillantes, bruyantes, grouillantes et qui s'adaptent à tout ou presque, qui se battent pour survivre. Ces vies qui ont finalement toutes leur place dans le cœur du Créateur. Pas un seul ne tombe sans qu'il soit dans la volonté aimante du Père. Le Père, tel qu'il est présenté par Jésus, reste le maître de la vie, de sa création. Mais je pense aussi en cet instant aux vies nombreuses, innombrables même, aux vies qui semblent brisées, ou ne pas avoir pu accomplir ce qu'il était en elle. C'est pourquoi, oui, frères et sœurs, j'affirmerai toujours l'espérance de la résurrection, contre tous les doutes qui peuvent m'assaillir moi-même, parce que c'est là la justice ultime du Père. Ces vies, elles sont aimées, elles ne seront pas passées par perte et profit, ces vies poursuivront leur chemin en Dieu. Alors j'entre, comme beaucoup, dans cette espérance, dans l'obscurité et la clarté de cette espérance pour demeurer humain, vivant, debout. La troisième peur, c'est la peur du témoignage, de la foi elle-même. Cette peur-là, frères et sœurs, elle se niche partout. dans nos couples, nos familles, nos lieux de travail, bien sûr, nos amitiés. Parfois, nous avons l'impression de n'avoir plus qu'un droit, celui de nous taire, d'encaisser les moqueries, d'apparaître comme des dinosaures qui croient encore à ces calembredaines, à ces discours. Alors du coup, on se tait. On n'ose plus aller à la messe, même pour Noël, parce qu'on préfère finalement la paix. Au travail, on se met à sourire à des blagues plus que douteuses. On se fait à l'idée que si nous faisons quelque chose de bien, ben on ne peut pas en parler au nom de la laïcité, mais si nous faisons quelque chose de mal, alors bien sûr, il faut le faire savoir au nom de la vérité de l'information. Et si l'on ajoute à cela que ceux ou celles qui parlent parfois le plus fort nous font regretter qu'ils ne se soient pas tus, oui, c'est vraiment difficile. Quel témoignage! Alors une direction peut-être qui est indiquée, Jésus ne parle pas dans ces versets de défense d'idées, de doctrines, d'articles de foi, il parle de la relation entre le disciple et lui. Ce qui nous ramène au fond au cœur véritable de notre foi, du choix que nous avons fait, de notre baptême auquel nous avons consenti, avec au fond la question qu'il pose à Pierre, l'aimons-nous vraiment? M'aimes-tu plus que ceci? Alors, si tel est le cas, comment pourrais-je renier ce lien, cet attachement qui me fait vivre, qui éclaire mon existence, je dirais même qui peut la conduire, cette existence? Alors oui, la parole vient, quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi, je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Dans cette page, il me semble que Jésus décline donc, de manière très réaliste, son conseil, son avertissement tout au long des évangiles, n'ayez pas peur. La peur, c'est le début de la mort. L'espérance et la foi, qui se font charité, demeurent la vie véritable en chacun de nous. Alors, ne craignons pas. Vivre dans la crainte, c'est déjà ne plus vivre vraiment. Or Dieu nous veut vivants, debout. Amen, frères et sœurs.